Bonsoir, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Franck Medioni.
Bonsoir.
Et merci aussi d'être parmi nous ce soir. Alors Franck Medioni, vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez une très longue bibliographie hein, qui égrène beaucoup de musiciens de jazz. On va aller Marcel Solal, Django Reinhardt, en passant par Miles Davis, Albert Ayler, Armstrong, Sonny Rollins. Et puis déjà, il y avait un livre de Coltrane, hein, un livre qui était publié chez Actes Sud, où 80 musiciens témoignaient sur Coltrane. Et puis aujourd'hui, vous venez nous voir pour présenter ce John Coltrane, L'amour suprême aux éditions du Castor Astral. Alors peut-être pourriez-vous, pour commencer, nous raconter la naissance de cet ouvrage ?
Comment est-il né ? On va dire que ce livre est né il y a à peu près 30 ans. J'étais un peu plus jeune, je découvre Coltrane, et ce que dit Zeno Bienvenu dans la postface, on ne sort jamais de Coltrane, happé par cette musique, écouter, réécouter, écouter encore. Il y a eu ce livre, Actes Sud, où je questionnais des musiciens qui ont joué avec Coltrane ou qui s'inscrivaient dans sa filiation et d'autres. Et il y a eu un moment où j'avais envie de mettre des mots sur la passion, sur la musique, même si mettre des mots sur la musique est toujours un exercice périlleux, voire impossible. Et je voulais questionner Coltrane. Je peux dire que je vis avec lui, avec sa musique, au quotidien. J'écoute pas sa musique au quotidien, mais pour le moins, elle m'habite en permanence. Et donc, je voulais questionner cette musique, tracer les lignes de vie, questionner sur Coltrane. C'est un parcours de vie qui n'est pas tout à fait comme les autres. Donc, je me posais la question et sur l'homme et sur le créateur. Et puis, entre les deux, le processus musical. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je pose la question, c'est le processus musical. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que cette musique jaillit avec autant de beauté irradiante, de force, avec ce mouvement de transformation quasiment infini, puisqu'il est en mouvement perpétuel.
Oui, pour commencer, on pourrait présenter l'homme, le musicien, donc.
Ben, pour le présenter le musicien, il faut dire que c'est un homme qui est issu. Il est né à Hamlet, mais il va vivre surtout à Philadelphie. Le contexte est très important, contexte familial, parce que c'est un contexte religieux. Le grand-père Blair est pasteur. Donc la musique, comme beaucoup de musiciens américains, hein, noirs américains, je pense à Aretha Franklin, le père est pasteur, sa musique, cette musique-là, elle est issue du gospel, elle est issue de l'église, du temple, en l'occurrence, américain. Et Coltrane, c'est ça aussi, puisqu'il découvre la musique à l'église. Sa mère est pianiste, pratiquante. Donc, l'évolution est. La musique, le terreau fertile est déjà là. Il y a l'église. Et puis aussi, c'est important, la radio aux États-Unis, à ce moment-là, on est dans les années 40-50. Les concerts, des concerts de Duke Ellington et autres, sont retransmis à la radio. Et Coltrane va découvrir Johnny Hodges, le saxophoniste de Duke Ellington, par la radio. Donc il y a l'église, il y a la radio. Voilà, ce sont vraiment les bases, le tremplin, on va dire.
Et après, il y a la pratique de l'instrument, on va y revenir. Donc comment il passe, il va jouer du sax, la manière dont il va jouer, la manière dont il va le perfectionner, en fait. Mais en revanche, on pourrait parler, avant de parler de sa perfection du sax, de musicien, alors vous avez parlé là de Johnny Hodges, mais sa vraie claque, ça a été quand même Bird, Charlie Parker.
Oui, c'est Charlie Parker. Dans les années 40, il y a ce phénomène qui est quand même la révolution modernistique, jazzistique. C'est le bebop et c'est surtout Charlie Parker. Et musicalement, harmoniquement, rythmiquement et saxophonistiquement parlant, Coltrane commence le saxophone au saxophone alto. Donc Bird est ce saxophoniste très impressionnant qui fait date et qui fait aussi qui fait influence. Après, Coltrane va choisir le ténor. Pourquoi ? Je pense que ça correspond plus à sa voix VOIE et VOIX, sa voix intérieure. Hein, le saxophone, c'est vraiment le son, la colonne vertébrale, et je pense que c'est son son. Donc il y aura le ténor, et puis il y aura le soprano. Vous savez que c'est le saxophone droit, c'est la même tonalité, si bémol. Donc un saxophoniste ténor peut jouer à la fois, ce ne sont pas les mêmes doigtés, mais il peut jouer à la fois du ténor et du soprano. Mais effectivement, Charlie Parker est une des sources principales de sa musique. À l'époque, c'est le bebop. Donc, quand on est musicien de jazz, on fraye dans cette voie-là. Et au départ, Coltrane est un musicien bebop.
Alors oui, alors il est musicien bebop au départ. Mais enfin, Coltrane, c'est quand même tout le jazz du 20e, enfin de la deuxième partie du 20e. C'est-à-dire qu'il commence bebop, il va être hard bop, il sera modal pour finir free.
Ben c'est la singularité de Coltrane, parce que imaginez, il y a beaucoup de musiciens, je sais pas, je pense à Horace Silver, magnifique pianiste des années 50, qui correspond au hard bop, les albums Blue Note. Il trouve son style et après il reste dans son style, il n'en sort pas. Pourquoi en sortirait-il d'ailleurs quand on a trouvé un style, quand on a trouvé sa musique? En revanche, Coltrane, il est en mouvement permanent, en révolution permanente. Donc effectivement, c'est le bebop. Après, ce sera les années 50 et le hard bop. Après, ce sera la musique modale, le jazz modal. C'est Kind of Blue avec Miles Davis. Et ça va lui ouvrir, et cette musique-là, la musique modale, va lui ouvrir de plus en plus d'un point de vue harmonique. Ça va lui ouvrir, ça va ouvrir la voie très très large à une musique qui va devenir universelle. C'est pour ça que quand il va jouer la musique modale, et après ce sera la musique free, mais free au sens propre du terme, c'est-à-dire une musique libre, complètement libre. Et à partir de là, sachant qu'il s'intéresse à toutes les musiques, la musique indienne, India, ou les musiques africaines, il va déployer un chant, tous les chants du monde, j'ai envie de dire, tous les chants du monde, pour aboutir à une expression qui est complètement universelle. On appelle ça jazz. Jazz, ce n'est qu'une boîte, hein, ce n'est qu'une petite boîte où on enferme un peu. C'est une boîte très grande, une grande maison avec plein de fenêtres et plein de portes. Mais ça reste quand même une boîte. C'est faute de mieux, on l'appelle ainsi. N'oublions pas que ces musiciens n'emploient jamais le mot jazz aux États-Unis. Quelle musique jouez-vous ? Je joue de la musique. Après, quel style de musique ? Alors, bon, là, il faut mettre des noms sur la chose, toujours. Mais,
Coltrane disait lui-même, je joue John Coltrane.
Oui, ben c'est ça, il joue l'expression de ce qu'il est. Et c'est l'honnêteté totale de dire ça. Le jazz, c'est quand même un nom, un mot de blanc à coller de façon commerciale à la musique des Noirs. Faute de mieux, on a utilisé ce mot qui est à la fois très beau et carrément merdique, il faut le dire.
D'accord. Alors, donc, cette évolution ou cette modulation qui va être toute la musique de Coltrane, en fait, hein, cette évolution Coltrane. Donc, il ne la fait pas tout seul. Enfin, il va rencontrer des musiciens, et des musiciens qui vont être assez, enfin, qui vont l'aider ou qui vont l'accompagner. Alors, on pourrait parler par exemple de Monk, la rencontre avec Monk et ce qu'elle a de particulier, parce que c'est une période très difficile dans la vie de Coltrane quand il rencontre Monk. Parce qu'il est aux prises avec la drogue.
Il y a deux musiciens importants dans le parcours de Coltrane. Tous le sont, parce que le jazz, c'est avec, et c'est avec part, c'est un travail collectif. Il y a tout d'abord Miles Davis. En 1955, Coltrane est inconnu. C'est un saxophoniste comme les autres, et c'est Miles Davis, en l'intégrant dans son premier quintet, le premier quintet historique, qui prend la lumière, c'est grâce à Miles, qui lui est déjà une star. Et il lui fait prendre la lumière, d'une part, et puis il lui permet de déployer ses ailes, d'un point de vue harmonique, il lui donne de l'espace. Et puis, effectivement, en 1957, rencontre marquante, déterminante, c'est avec Thelonious Monk. Là, il va pouvoir harmoniquement aller loin, très loin. Monk est un grand professeur de musique et c'est lui qui le révèle, j'ai envie de dire, qui le révèle à lui-même. Ce qui permettra après à Coltrane, en 1960, de créer son propre groupe et puis de creuser le sillon encore plus loin. Effectivement, il y a ce sont deux pôles, deux phares que sont Miles Davis et Thelonious Monk.
Oui, Davis, par exemple, il n'a pas l'air d'être évident. Vous l'évoquez un peu tout en l'évoquant pas. Là, vous faites beaucoup parler sur les Monk lui-même, qui est assez bienveillant avec Miles Davis. Ceci dit, il ne dit pas de choses. C'est un homme, on ne l'a pas dit, mais c'est un saint. Donc, Coltrane ne dit pas de mal. Mais ça a l'air compliqué. Il n'y a pas l'air d'avoir. Ça ne discute pas beaucoup. Mais Miles Davis, ça a l'air compliqué aussi avec ses musiciens. Pas.
Ce qui se passe, c'est que Coltrane, il veut savoir. Coltrane est un homme en quête permanente. C'est l'homme des questions. Et il joue avec Miles Davis et il n'arrête pas de poser des questions à Miles Davis. Il n'arrête pas. Musique, je joue là, je fais l'intro, je fais ça. Et Miles Davis. Mais ça va, mais joue, fais ton truc. Il l'énerve, il l'agace vraiment. En plus, Miles, c'est quelqu'un qui a de l'humour, mais qui peut être hautain, un peu méchant. Et donc, humainement, ça se passe pas très bien entre Coltrane et Miles Davis. En revanche, Monk, qui est l'homme du savoir, Monk a une bague, je le raconte dans le livre. Il a mis Monk, il a créé lui-même. Mais à l'inverse, Monk, c'est know, to know, savoir, connaître. Ça, c'est intéressant. Et avec Monk, il peut poser toutes les questions possibles. Il va travailler chez lui, il lui montre les accords, il travaille l'harmonie. Et là, c'est vraiment possible. Alors qu'avec Miles et Coltrane, c'était vraiment très, très difficile. Il y a cette histoire qui est une blague, mais qui est magnifique, qui dit aussi ce qu'était Coltrane. Il faut dire qu'il travaillait, et quand il ne travaillait pas, il travaillait. Et quand il ne travaillait pas, il jouait. Et quand il ne jouait pas, il jouait. Et quand il ne jouait pas, il enregistrait. Et il y a cette blague, et c'est véridique. À un moment, Miles demande à Coltrane, mais pourquoi tu joues autant, parce que c'est chorus. Après chorus, on a quand même jamais vu ça. Le jazz a ses règles. A, B, A, il y a une forme, improvisation, ça peut être, souvent c'est une introduction, parfois collective, après le A, c'est l'énoncé du thème, après improvisation, un chorus, ça peut être le bassiste, ou bien ça sera le pianiste, après retour au thème, et après hop, on ferme la boutique, c'est fini. Mais l'improvisation, ça ne dure pas un quart d'heure. C'est quelques mesures, bon, c'est au feeling, mais c'est quelques mesures. Alors que Coltrane, ça n'arrête pas, mesure, mesure, mesure. Et donc tout le monde est étonné, forcément. Et les musiciens qui sont sur le plateau, qui jouent avec lui. Et puis le public est aussi désarçonné. Le 21 mars 60, quand Coltrane joue à l'Olympia avec Miles, il se fait siffler. Et donc Miles dit, mais pourquoi tu joues autant? Et Coltrane répond, parce que je ne peux pas m'arrêter.
Je ne sais pas où.
Je ne veux pas m'arrêter, j'arrive pas à m'arrêter. Et Miles lui répond, bah, tu sais ce que tu fais, t'enlèves le saxophone de la bouche.
Non, ne serait-ce que... Alors, quand même, il faut le dire, oui, la collaboration entre les deux a quand même donné peut-être un des plus grands disques de jazz qui soit, qui est Kind of Blue, quand même.
C'est le disque de jazz le plus vendu au monde. C'est un disque assez magique, ça s'est fait en très peu de temps, en 2 jours. C'est le disque, un disque collectif, c'est surtout, je pense, le disque de Bill Evans. C'est la couleur orchestrale est très Bill Evansienne. Après, il y a la modalité, il y a ses nappes, il y a des très beaux chorus de Coltrane. Il y a Miles aussi, il y a Kenneth Boladerley. Et puis Jimmy Cobb, puisque Philly Joe Jones s'était fait virer du groupe pour des raisons stupéfiantes. Et il y a des moments de grâce. C'est un disque qui est assez inouï, qui s'est quasiment improvisé. Et effectivement, et Coltrane et Miles ont été les artisans de cet objet sonore qui n'arrête pas de nous surprendre. Ouais.
Et qui ne nécessite pas d'être forcément amateur ou connaisseur de jazz pour écouter.
C'est un disque, on n'a pas besoin de connaître l'histoire du jazz. C'est un disque qui agit immédiatement, j'ai l'impression.
Donc les musiciens qui ont aussi... inspirés ou en tout cas qui ont rencontré ou que Coltrane a rencontré, qui a aussi des traces. On pourrait parler d'Ornette Coleman, ne serait-ce que pour le passage à l'alto ou quand ce jeu avec Coleman, il en parle.
Ornette Coleman était important quand Ornette joue à New York au Five Spot 58, c'est très marquant. Tout le monde est là, Miles Davis, Coltrane aussi. Et là, il y a une petite révolution en marche. Déjà, le free jazz pointe le bout de son nez. Coltrane va prendre des cours avec, Ornette. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'indiquais dans le livre, parce que je ne sais plus ce qu'il y a dans ce livre. Quelques années après, John Coltrane reçoit une lettre d'Ornette Coleman pour le remercier de ses cours avec un chèque.
Oui, c'est dans le livre.
C'est dans le livre, d'accord.
Tout le monde pourra le lire.
Oui, et je trouve ça très classe, quoi. C'est très élégant. Déjà, de le remercier, il n'était pas obligé. Puis un chèque aussi, les musiciens ont besoin d'argent. C'était aussi élégant. Donc Ornette, oui, important. Il va d'ailleurs enregistrer avec quelques-uns des musiciens d'Ornette Coleman, dont Don Cherry, Charlie Haddon et Billy Higgins. Effectivement, dans le jalon, dans le parcours de Coltrane, c'est aussi une figure importante. Ouais.
Et puis tranquillement, on va arriver au quintet. Alors, on pourrait parler d'Eric Dolphy, puis on va parler surtout d'Elvin Jones. Comment ça se monte?
Il y a un moment, donc si on reprend la chronologie, on est en 57, donc c'est Monk. Et après, Miles fait appel à John Coltrane ponctuellement, il y a des tournées européennes. Et puis, il y a un moment où forcément, Coltrane a envie de créer son propre groupe. C'est tout à fait légitime, c'est normal, c'est logique. Donc il y a plusieurs quartets qui se créent, mais il attend Michael Tyner, il y a Steve Kud, et puis il cherche un batteur, il crée l'édifice musical, le quartet, et il faut quelques temps pour qu'il se mette en place. Finalement, il va se mettre en place, donc avec Michael Tyner piano, Jimmy Garrison contrebasse et Elvin Jones batterie. Puis ensuite, pour différentes raisons, il va intégrer d'autres musiciens, surtout Eric Dolphy, saxophone alto, et flûte, en chant, contre-chant. Il trouve là un alter ego, hein. C'est vraiment un frère de son, je pense, Eric Dolphy. S'il y en a un, ce sera Eric Dolphy. Et puis, plus tard, une fois le quartet dissous, il y aura d'autres saxophonistes qui l'intéressent parce que ils vont là où lui ne va pas, où il ne peut peut-être pas aller. Ceux qui sortent du chemin, c'est Archie Shepp, c'est Pharoah Sanders, c'est John Chikai.
Albert Ayler,
très important. Ils sont des musiciens free. Et c'est le drame un peu coltranien, c'est qu'il le dit toujours, déjà il y a une grande maîtrise, une maîtrise instrumentale totale, et même quand il joue free, complètement free, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'immédiateté de la présence au son, il maîtrise tout le temps. Alors que Archie Shepp, il lâche, il sort du chemin, il maîtrise pas, il va là où la musique le dirige.
Mais d'ailleurs, Coltrane le dit dans un entretien avec Delorme où il raconte qu'il part d'un point, il va au plus loin possible, en espérant s'oublier, mais il n'arrive jamais. Il n'arrive pas.
Et c'est un peu son drame. Mais moi, je trouve que c'est un drame et à la fois, c'est sa majesté. Parce que, à la fois, il maîtrise totale. Moi, je ne suis pas saxophoniste, mais pour avoir parlé aux saxophonistes, en termes de tempo, en termes de grille, c'est extraordinaire. Et en même temps, il y a ce lyrisme, il y a ce souffle qu'on n'a jamais vu. Et moi, c'est ce qui m'impressionne chez les créateurs. C'est le cas de Picasso. À la fois, il y a une forme, et en même temps, il lâche quelque chose, il y a une maîtrise du tracé, et en même temps, et ça c'est Coltrane, et en même temps, il y a un grand souffle. Ça, c'est la majesté, c'est la grandeur de Coltrane.
Ouais. Oui, pour amener la maîtrise de l'instrument, hein, c'est-à-dire du son, c'est quelque chose qu'il aura travaillé toute sa vie, tout le temps.
Travailleur acharné, travail.
Tout le monde témoigne de ça, tout le temps.
Alors, c'est to practice, en anglais, c'est to practice, ça veut dire pratiquer, ça veut dire travailler. Neyma, sa première épouse, a raconté que souvent, elle le retrouvait endormi avec le bec du saxophone dans la bouche, vous imaginez. Donc, il était tout le temps la musique. Et forcément... La musique, c'est 24 heures sur 24. Hein. C'est ce que dit Dave Liebman, saxophoniste coltranien. Music is a full-time job. La musique, c'est à temps complet. C'est pas 5 minutes ou une heure quand je suis à un concert une fois par semaine. C'est à temps complet. Sauf que lui, c'est en permanence. Donc, c'est un homme musique. Il ne fait que ça. Il pense musique. Je pense qu'il mange musique. Il n'est que musique. Ce n'est qu'un média. C'est qu'un médiateur. Il est traversé par la musique. Et il a une voix, c'est son saxophone, et il n'est que musique. Alors, quand on est biographe de Coltrane comme moi, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur ou les aléas amoureux ou sur les anecdotes un peu fastidieuses, parce que on ne sait peut-être pas tout. Après, moi, la vie privée, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça m'intéresse si elle éclaire son œuvre, oui. Mais il n'aurait été que musique. Et c'est sa grandeur. C'est une obsession. C'est une obsession. L'obsession musique.
Alors, l'obsession de jouer, l'obsession musique, et l'obsession d'écrire aussi. Il y a... on pourrait parler maintenant de Love Supreme. Avant, on peut parler effectivement des grands albums, hein, c'est-à-dire Olé, My Favorite Things, Giant Steps, Crescent. Et après, à un moment, arrive Love Supreme. Comment arrive Love Supreme?
Comment arrive Love Supreme? Dire qu'en 1957, Coltrane, qui était junkie, héroïne, alcool, beaucoup... arrête tout ça, c'est très violent, certainement très difficile, très dur, et c'est concomitant, l'un va avec l'autre, l'un permet l'autre aussi, il rencontre Dieu, c'est en ça que c'est un musicien mystique, il dit, le mystique est celui qui a rencontré Dieu. Donc Coltrane dit, ça va transformer sa vie, ça va transformer sa musique, ça va l'innerver complètement. Et à partir de là, il va être dans cette ascension, qui est une ascension harmonique, jusqu'à se taper la tête du saxophone au plafond. Mais c'est aussi, surtout, une quête spirituelle et une ascension religieuse, d'une certaine façon. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il est baptiste. Il a vécu le terreau musical et religieux. Il ne parle pas de Jésus, il parle de Dieu. Et il ne le nomme pas. Il ne va pas à l'église ou au temple. Moi, je considère que sa pratique musicale, c'est sa pratique religieuse, je veux dire, c'est la musique. Et il y a un moment où, et c'est là qu'apparaît Love Supreme, il fait ce don de sa musique à Dieu. Donc, Love Supreme, c'est une offrande musicale, comme Bach et ses cantates, pour le divin, et puis pour l'humain, hein, peut-être aussi pour le divin qui est dans l'humain, parce que ça va au-delà qu'une prière, pour moi, c'est qu'une offrande. Ça va au-delà de ça. Et c'est en ça que ce geste est très ample et cette musique est très, très vaste. Donc, il conçoit cette forme de suite, d'offrande musicale extrêmement lyrique, qui est Love Supreme, qui est une œuvre singulière, qui sera aussi une forme, je ne dis pas, je ne pense pas l'avoir dit, ou là je le dis là, mais une forme de testament. Pour moi, c'est une forme de testament. Ça va très vite, hein, quand on dit qu'il travaille beaucoup, il joue beaucoup, il enregistre beaucoup, tout ça va très vite. On dit que c'est 12 ans ou 10 ans, à partir du moment où il joue avec Miles Davis ou Thelonious Monk, il y a ce quartet, et ça va très très vite, il joue énormément, il enregistre énormément, et il est dans cette ascension, et puis après, forcément, il y a la mort, parce que le corps, probablement, est fatigué, parce que le corps a subi déjà l'alcool, le corps a subi la drogue, et on n'en sort pas indemne. Et puis il y a l'usure aussi, il y a l'usure du corps, de la dépense, de l'énergie. Hein. Un concert de Coltrane, ça peut être 3 heures, 3 heures et demie, hein, sous haute tension. Hein. Il faut cette musique, ça bras le corps, c'est le cas de le dire, hein, je pense. Et donc, je suis quasiment certain, voire plus que ça, qu'il a une préscience de sa mort. Et qu'il va accélérer le processus parce que comme il est dans un processus de don de soi, de don de soi, il accélère. Et il joue beaucoup, il enregistre beaucoup, et cette musique, Love Supreme, je pense, est peut être d'une certaine façon une forme de testament, à la fois une offrande et un testament peut-être.
Oui, d'autant plus que, enfin, Coltrane meurt très jeune, il a 40 ans.
C'est très jeune. C'est très jeune. Charlie Parker, il y a Clifford Brown, il y a des. L'histoire du jazz, pour des raisons historiques, politiques, sociales, et quand même, il y a beaucoup quand même de musiciens qui sont morts jeunes. Moi, j'ai rencontré Sonny Rollins une fois qui m'a dit être allé écouter Charlie Parker. Charlie Parker lui avait dit attention, prends pas cette saloperie, ça va tous nous tuer. Et Sonny Rollins a eu des problèmes aussi avec la drogue, il s'en est sorti, mais après, il considérait que c'était un rescapé. Et il est toujours vivant, il est en grande forme, il est très âgé, mais voilà, il est végétarien, méditation, bouddhisme, mais ça le tient très en forme. Et Coltrane fait partie de ces gens, comme Charlie Parker et quand même beaucoup d'autres, qui ont vécu, la musique à 300%. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte sociopolitique. Hein. Ils vivent aussi, ne l'oublions pas, un racisme ordinaire hein, au quotidien. Et ça, il faut l'encaisser aussi. Hein. Dans les années 60, noir-américain, même si on s'appelle John Coltrane, qu'on est un grand saxophoniste et qu'on a de l'argent, il n'empêche que c'est difficile. Et dans ce livre, j'ai voulu travailler sur... je réponds à la question que vous alliez me poser après. Je lis dans vos pensées. J'ai voulu travailler sur deux aspects de Coltrane qui ont été abordés, mais pas suffisamment dans les autres livres. C'est d'une part le Coltrane mystique. Donc il y a un chapitre qui s'appelle Un amour suprême, d'où aussi le titre de ce livre, John Coltrane, l'amour suprême. Et puis le Coltrane politique. C'est-à-dire qu'il épouse la cause free jazz dans les années 60, et free jazz, c'est free jazz black power, c'était quand même très politisé. Pour autant, par rapport à ses confrères musiciens, ses amis musiciens, il n'a jamais eu vraiment de propos politiques. Alors, on le sait, il a assisté à une réunion de Malcolm X, mais il n'a jamais eu de propos politiques. Et quand... En juillet 1966, un universitaire marxiste, Frank Kowski, le questionne sur le politique. Ça, c'est magnifique. À chaque fois, Coltrane répond en musicien. Ça, c'est sa grandeur. Il aurait pu dire, il répond toujours en musicien parce qu'il n'est que musicien et il est musicien. Pour autant, quand des jeunes filles noires sont assassinées à Birmingham, en Alabama, en septembre 63, il y a un choc et peu de temps après apparaît sur un disque, parce qu'il l'a joué, et c'est sur le Live in Birdland, ce titre qui est bouleversant. Je vous conseille de l'écouter, on le trouve facilement, même sur YouTube. C'est Alabama, donc il fait référence à ces jeunes filles noires assassinées par les membres du Ku Klux Klan. Ce sont des bombes dans une église, hein, dans une église qui ont été jetées. Et c'est un titre assez court, avec Elvin Jones au maillot. Et c'est une forme de lamento, de requiem. C'est vraiment bouleversant. C'est vraiment bouleversant. Et ça, c'est sa réponse politique. Bon, musicale, donc poétique, donc politique, mais là c'est affiché, c'est par la musique, mais ce Alabama dit avec force la tristesse de cet homme.
Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est particulier chez Coltrane dans les musiciens noirs de son époque, des jazzmen, c'est que lui ne s'est pas converti.
Oui, tout à fait, parce que à l'époque, dans les années 60, beaucoup de musiciens noirs, pour affirmer aussi leur négritude, ont épousé l'islam. Alors c'est Art Blakey, par exemple, c'est Ahmad Jamal, vous connaissez peut-être le pianiste Ahmad Jamal, il s'appelle Fritz Jones, il s'appelle Ahmad Jamal, ce qui est un nom musulman. Il veut jamais en parler d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai questionné trois fois, et à chaque fois, il élude la question. Ça fait peut-être partie de l'intime, mais il ne veut pas en parler. Respect. Et il y a beaucoup de musiciens...
Oui, on pense à Dollar Brand.
Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, effectivement. Et Coltrane s'est intéressé, il s'intéressait beaucoup aux philosophies orientales, il est mystique, il s'intéresse aux soufis, il s'intéresse à l'islam, il s'intéresse aussi au texte indien, et il dit à un moment que il s'est posé la question de se convertir à l'islam, mais il n'a pas franchi le pas.
Merci beaucoup, Franck.
Merci.